Alors, on continue au numéro 999. Donc, comment cette résurrection de la chair aura lieu? Le Christ est ressuscité avec son propre corps. Regardez les mains et les pieds, c'est bien moi. Mais il n'est pas revenu à une vie terrestre. De même en lui, tous ressusciteront avec leur propre corps qu'ils ont maintenant, concile de Latran. Mais ce corps sera transfiguré en corps de gloire, en corps spirituel. Bon, on a un petit peu évoqué ce matin la manière d'être corps glorieux, ce n'est pas quelque chose qui nous est familière. Donc on pense que. Mais voilà, avec notre propre corps qui sera comme irradié, parce qu'on sera en communion avec Dieu. Irradié par la gloire de Dieu et élevé à une dignité supérieure parce qu'on est fils de Dieu, pour le coup, on n'est pas simplement ami de Dieu comme l'Adam avant la chute, on est fils de Dieu, donc par le baptême. Donc, du coup, on a une glorification et on arrivera comme baptisé dans le royaume de Dieu. De même, on arrivera comme confirmé. Tous les sacrements qui impriment un sceau, comme le baptême, la confirmation, évidemment, l'ordre. Le sacrement de l'ordre, c'est la prêtrise, qui imprime la chose, c'est ainsi qu'on a aussi, on arrivera dans le royaume de Dieu. C'est intéressant de penser à ça. Donc, du coup, mais dira-t-on comment les morts ressuscitent-ils? Avec leur corps reviennent-ils insensés? Ceux qui sèment, toi ne reprends vie, ceux qui sèment, toi ne reprends vie s'ils ne meurent, et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps à venir. Mais un grain tout nu, on sème de la corruption, on ressuscite de l'incorruption. Les morts ressusciteront incorruptibles. Il faut en effet que cet être incorruptible revête l'incorruptibilité, que cet être mortel revête l'immortalité. C'est la première lettre aux Corinthiens. Quand est-ce que ça arrivera? Donc, une fois qu'on ressuscite avec son corps, c'est à la fin du monde. Hein. C'est quand, définitivement, au dernier jour, à la fin du monde. En effet, la résurrection des morts est intimement associée à la parousie. Parousie, ça veut dire manifestation, la venue du Christ en gloire, à la parousie du Christ. Car lui-même, le Seigneur, a donné le signal par la voix de l'archange et de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts qui sont dans le Christ ressusciteront en premier lieu. Première lettre aux Thessaloniciens. Ressuscité avec le Christ. Dans l'attente de ce jour, le corps et l'âme du croyant participent déjà à la dignité d'être au Christ, d'où l'exigence de respect envers son propre corps, mais aussi envers celui d'autrui, particulièrement lorsqu'on souffre. Le corps est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Hein, première aux Corinthiens. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera nous aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres du Christ? Vous ne vous appartenez pas, glorifiez donc Dieu dans votre corps. Voilà, c'est toute cette dignité que trouve le corps humain en lien avec le Christ, comme baptisé, comme futur corps glorieux, qui fait qu'on a une attention particulière à son propre corps, comme temple de l'Esprit Saint. Voilà, c'est. D'où je pense aussi dans l'éducation, hein, vous êtes dans l'éducation, et du coup, particulièrement des ados ou pré-ados, etc., du respect de son propre corps, de l'attention à son corps, de l'éducation à garçon ou fille, de l'éducation aux relations avec les personnes de l'autre sexe, aux jeunes de l'autre sexe, etc. D'autant plus qu'ils n'entendent pas beaucoup ça, même dans des écoles catholiques. Voilà, c'est pas forcément d'actualité, même si. Il y a des cours d'éducation sexuelle, mais qui donnent plus le comment que le pourquoi. À les cours de SVT, ça dit comment on fait les bébés, grosso modo. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas, même je sais même pas si on parlait de ça en SVT quand j'étais plus jeune. Mais ça ne donne certainement pas le pourquoi. Quelle est la finalité de l'union intime des époux? C'est quoi la finalité? Et pourquoi se préserver? quand on est adolescent, et qu'est-ce qu'on peut regarder, qu'est-ce qu'on ne peut pas regarder. Il y a toujours un malin qui montre avec son portable un truc porno, etc. Bon, voilà, ça fait partie, le cousin, le machin, le fils de bonne famille, ou quoi qu'est-ce, voilà. Que vous puissiez libérer la parole et qu'il puisse y avoir une parole libre dans votre famille là-dessus. T'as vu ça? Ça t'a choqué? Qu'est-ce que t'as choqué? Pourquoi? Est-ce qu'on t'en a parlé? Le pire, vous voyez, dans les questions sexuelles, c'est de rester seul. Je vois bien dans l'accompagnement des couples, bon, les questions sexuelles, ce n'est pas des questions simples parce que c'est lié à la culpabilité, puis c'est lié à une certaine honte, etc. Bon, et c'est difficile. Et le pire, c'est de rester seul. Alors que ce soit pour votre vie de couple, vous pouvez avoir des pannes, vous pouvez avoir des moments de tentation, qu'on puisse parler, tiens, j'ai été tenté par telle personne, voilà, le puisse le dire à son conjoint. Ce qui permet de désamorcer la chose. Mais pareil pour vos enfants, de leur faire prendre conscience que leur corps n'est pas simplement un amas de matière et de cellules, que leur corps est porteur de l'Esprit Saint et qu'il y a un respect à avoir au corps, de son propre corps, que ce soit par l'hygiène, que ce soit par les soins, le corps aussi du frère ou de la sœur, on ne va pas mordre son frère, mordre sa sœur, etc. Bon, même si ça fait du bien, ça soulage temporairement, mais voilà, c'est à éviter. Hein, donc, surtout qu'ils sont bien nourris, je pense, chez vous. Donc, mais voilà, du coup, leur apprendre aussi que le corps, pourquoi tu as fait ça avec ton corps, taper l'autre, etc. C'est de dire, beaucoup, c'est le manque de maîtrise de ses propres émotions. Il y a des enfants qui sont tellement submergés par leurs émotions que même l'intelligence, intéressant, les échecs scolaires. Les échecs scolaires ne sont pas dus à des intelligences qui ne sont pas développées. Les échecs scolaires à 90%, c'est dû à des manques de contrôle des émotions, que l'émotion submerge l'intelligence et l'empêche de raisonner. C'est souvent ça. Donc que vous puissiez, et moi je suis quand même étonné, c'est-à-dire dans la préparation au mariage, du manque de formation de grands jeunes, là pour le coup, on parle de 25-35 ans, hein, d'hommes et de femmes, voilà. Non, on n'a pas parlé, on ne disait rien, etc. On a pris par les copains, par le site internet, par machin. Dommage. Alors, vous êtes porteur, vous, d'une parole, vous êtes porteur d'un message. Je pense que c'est... Et plus que vous ne le pensez, vos enfants sont réceptifs à ça. Bon, à mesure de leur âge, évidemment, mais ils sont réceptifs. Donc, soyez pas dans cette crainte de... Ça veut dire aussi un certain travail sur soi-même, comme père de famille, comme mère de famille, de parler à son garçon, à sa fille, des choses de la vie, du désir qu'il peut se ressentir. Est-ce que tu as ressenti ça? Est-ce que venez nous parler si vous avez des choses qui vous troublent, si vous voyez, voilà, n'hésitez pas à en parler. Ou il peut y avoir, je trouve, il y a aussi dans l'Église des relais, comme Teen Star, par exemple. Teen Star, c'est tout ce qui est l'éducation affective et sexuelle dans les collèges et lycées. Le clerc aussi fait des choses. Dans le scoutisme, il peut y avoir aussi des relais qui sont donnés. Du coup, des moyens que d'autres personnes puissent parler de façon plus libre et que vous puissiez, mais à reprendre en famille et à reprendre personnellement, évidemment. Mais ça s'enracine dans ça, dans le fait que glorifier Dieu dans votre corps, c'est, voilà, ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ? Il n'y a pas que notre âme, la fine pointe de notre âme qui est en contact avec le Seigneur, notre corps aussi est en contact avec le Seigneur. On est corps et âme à l'imitation et à la ressemblance de Dieu, à l'image et à la ressemblance de Dieu, corps et âme. Pas seulement notre âme, la fine pointe de l'âme. Le corps aussi est à ressemblance de Dieu et à l'image de Dieu. C'est pour ça qu'il n'y a rien de sale dans le corps. Ce qui est sale, c'est ce qui peut habiter le cœur de l'homme ou de la femme. Mais dans le corps humain, il n'y a rien de sale. Non. Donc, oui.
Dans l'attente de ce jour, le corps et l'âme participent déjà à l'unité d'être au Christ. Moi, je vous dis que l'âme est dans cette phase de purification et de contemplation de Dieu, et que le corps était dans la corruption du temps du Congo, sans que la fin des temps.
C'est le numéro 1004, c'est quoi?
Là, vous dites le corps et l'âme participent.
Oui, parce que la dignité d'être au Christ, de son vivant. Je comprends ça comme ça. Dans l'attente de ce jour, le corps et l'âme du croyant participent déjà à la dignité de son vivant. Vous avez été temple de l'Esprit Saint, baptisé, etc. Ben, le corps ben, participe de la dignité d'être au Christ, même cadavre. Ben bien sûr. Et bien sûr. D'où le respect dû aux morts et aux cadavres. Je suis désolé de terminer la session sur les cadavres, mais bon, c'est pas très fun, mais en même temps, c'est notre destinée à tous à plus ou moins court terme, ou long terme, mais voilà, on participe de la dignité d'être au Christ, même un corps sans vie, sans son âme, principe de vie, et appartient à la dignité d'être au Christ. Alors, rassurez-vous, c'est que le mariage ne perdure pas dans la vie éternelle. Donc, ça peut être une source d'action de grâce. Mais. Alléluia! Maintenant, la preuve, c'est que le mariage est pour ce monde. La preuve, c'est quoi la preuve de ça? On peut se remarier. Quelqu'un dont l'époux, le conjoint décède, ou l'épouse, etc. Comme dirait l'autre, quand l'un de nous mourra, je te regretterai beaucoup. Mais le mariage est pour ce monde. Parce que le mariage est signe de l'alliance. Quand vous êtes face à l'alliance, il n'y a pas besoin de signe de l'alliance. Il y aura. Il y aura quand même quelque chose, un petit quelque chose, oui. Mais il y aura un petit quelque chose, oui, parce qu'il y aura. Toutes les personnes avec qui on aura un lien. Toutes les personnes avec qui on a un lien d'amour, que ce soit aussi vos enfants, etc., ce lien d'amour, on le retrouvera. Mais il sera en Dieu. Mais il ne sera pas. Ce n'est pas le sacrement du mariage. C'est pas que, parce que vous êtes signe de cette alliance avec Dieu, comme époux marié dans le Christ, vous êtes signe. Mais quand il y a la vision, pourquoi est-ce qu'il faut le signe ? Du signe. Et le sacerdoce, c'est pas pareil, parce que le sacerdoce imprime un caractère que n'imprime pas le mariage. Le sacerdoce, on peut pas on est prêtre pour l'éternité. Je suis comme prêtre, j'arriverai comme prêtre dans l'éternité, et je resterai à l'image du Christ prêtre dans l'éternité. Alors que le mariage n'imprime pas un caractère, ce qu'on va dire, un sceau ne met pas un sceau. De même, la communion, on communie plusieurs fois. En revanche, la confirmation, oui. En revanche, le baptême, oui. C'est les trois. Baptême, confirmation, sacerdoce qui imprime un sceau. J'arrive comme baptisé, comme confirmé, comme prêtre pour l'éternité. D'où l'importance aussi de votre propre confirmation. Mais si je pense que la majorité sont d'entre vous, vous êtes confirmés. Mais si ce n'est pas le cas, de vous poser la question de. Ou si vous êtes en contact, moi j'ai beaucoup parlé à la dernière retraite de fiancés, la question de la confirmation. Beaucoup arrivent dans la préparation au mariage sans être confirmés. Stricto sensu, disons, c'est pas légal, c'est pas catholique, dans le sens où il faut avoir passé, c'est logique, il faut avoir passé les sacrements de l'initiation chrétienne pour passer à autre chose. C'est quoi les sacrements? C'est les baptêmes. Confirmation, communion. Hein, donc c'est communion, confirmation. Mais le plus logique, c'est baptême, confirmation, communion. Et donc du coup, si je n'ai pas reçu l'initiation chrétienne, comment est-ce que je peux recevoir d'autres sacrements, entre autres le mariage? C'est vrai, sauf en France. En France, parce que du coup, les évêques avaient ras-le-bol de signer des dispenses, etc. Parce que du coup, il faut une dispense de l'évêque. De même, pour être parrain et marraine, il faut être confirmé. C'est logique. Comment pouvoir transmettre et éduquer dans la foi si soi-même on n'a pas été initié pleinement dans la vie chrétienne? Mais si on faisait ça, il n'y aurait plus de parrain, il n'y aurait plus de marraine, il n'y aurait plus d'époux, il n'y aurait plus rien, quoi. Et samedi après-midi, les prêtres iraient à la pêche à la ligne, voilà, parce que. Ben oui. Alors du coup, on se dit, mais non, on va essayer d'en rattraper un petit peu, etc. Sans beaucoup d'effet, je veux dire. Contrairement à la réalité commerciale, la vie spirituelle, c'est pas en bradant qu'on attire. c'est en montrant le bien, le vrai, le bon qu'on attire. C'est en... Maintenant, je suis très admiratif des pères qui sont en paroisse, du travail qu'ils font, etc. Parce que bon, il y a une telle inculture chrétienne, une telle. Et si vous dites non à quelqu'un pour le mariage, c'est fini, vous ne le revoyez plus. C'est fini. Il ne baptisera pas les enfants, il ne fera rien. Mourir dans le Christ Jésus. Pour ressusciter avec le Christ, il faut mourir avec le Christ. Il faut quitter ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur. Dans ce départ qu'est la mort, l'âme est séparée du corps. Elle sera réunie au corps le jour de la résurrection des morts. C'est en face de la mort que l'énigme de la condition humaine atteint son sommet. En ce sens, la mort corporelle est naturelle, mais pour la foi, elle est en fait le salaire du péché. Pour ceux qui meurent dans la grâce du Christ, elle est une participation à la mort du Seigneur, afin de pouvoir participer aussi à sa résurrection. La mort est le terme de la vie terrestre. La vie, nos vies sont mesurées par le temps, au cours duquel nous changeons, nous vieillissons. Et comme chez tous les êtres vivants de la terre, la mort apparaît comme la fin normale de la vie. Cet aspect de la mort donne une urgence à nos vies. Le souvenir de notre mortalité sert aussi à nous rappeler que nous n'avons qu'un temps limité pour réaliser notre vie. Du Coëlette, c'est l'Ancien Testament, Coëlette, hein, « Souviens-toi de ton Créateur au jour de ton adolescence, avant que la poussière ne retourne à la terre, selon qu'elle elle était, et que le souffle ne retourne à Dieu qui l'avait donné. » Voilà, donc... La mort pour le chrétien, donc je vous ai en parlé un peu ce matin, c'est la question d'une urgence, la question d'une... nous aurons une fin à notre existence. Et tous les saints vraiment rappellent le fait de se remettre face à notre mort, non pas de façon dépressive ou négative, mais se remettre face à notre mort comme une invitation à la conversion. On se remémore aussi que nous aussi, nous sommes mortels. Alors, je ne sais pas si je vous ferai comme l'abbé de Rancé. L'abbé de Rancé, un des acteurs de la réforme de l'ordre cistercien qui a fait les trappistes et qui avait connu une aventure avant d'être moine avec une jeune fille, etc. Cette jeune fille était morte. Il avait récupéré le crâne de la jeune fille. Il avait mis sur son bureau pour se rappeler voilà, que tout ce qui est cher est mortel, et donc pour l'aider à durer dans la fidélité. Bon, c'était un peu... c'était une autre époque, mais quand on a fait des travaux à l'abbaye, dans le sous-sol, etc., on a découvert, parce qu'il est probable qu'une des ailes de l'abbaye ait été construite sur le cimetière des frères de l'époque médiévale, et donc on a retrouvé beaucoup d'ossements. Et du coup, on l'a mis dans un ossuaire, voilà. Donc, mais je trouve ça beau. Et on passe régulièrement le lundi, on prie notre chapelet, on fait une station là au cimetière, face au cimetière, aux frères qui sont enterrés là. Et je trouve c'est bien de parce que ça redonne toute une saveur à la vie au fond. C'est la mort, c'est une rencontre. C'est pas pour le chrétien, c'est une rencontre. Ce n'est pas la fin, c'est le début. Et tout ce que nous vivons, c'est une préparation. La mort est une conséquence du péché, bien sûr. Interprète authentique de ces affirmations de la Sainte Écriture et de la tradition, le magistère de l'Église enseigne que la mort est entrée dans le monde à cause du péché de l'homme. Bien que l'homme possédât la nature mortelle, Dieu le destinait à ne pas mourir. La mort fut donc contraire au dessein du Créateur. Elle entra dans le monde comme conséquence du péché. La mort la corporelle à laquelle l'homme aurait été soustrait s'il n'avait pas été péché, s'il n'avait pas péché. Ainsi, le dernier ennemi de l'homme a devoir d'être vaincu. Voilà, c'est pas on n'a pas été fait pour la mort. On n'a pas été créé pour la mort. Avec le péché originel, de la séparation avec Dieu, on a vu la séparation avec la nature, hommes et femmes, etc. Mais à l'intérieur, cette dislocation de la personne humaine entre âme et corps. Mais ce n'était pas le projet initial, c'est la suite d'une liberté qui entraînait à la mort. La mort est transformée par le Christ. Jésus, le Fils de Dieu, a souffert lui aussi la mort propre de la condition humaine. Et c'est important ça, que le Christ soit mort et non pas simplement passé, parce qu'il y a tout un dialogue théologique. Est-ce que le Christ est simplement, est vraiment mort et n'est pas mort mais serait comme ressuscité immédiatement, ou est-ce qu'il aurait vraiment connu ce que nous connaîtrons, c'est-à-dire la séparation de l'âme et du corps? Nous disons que le Christ est mort, mais il n'a pas connu la corruption du tombeau. C'est-à-dire que son corps a été immédiatement assumé par sa divinité et donc glorifié. Donc la résurrection, elle est pratiquement instantanée dans le Christ. Donc du coup, la mort corporelle, il l'assuma dans un acte de soumission totale et libre à la volonté du Père. L'obéissance de Jésus a transformé la malédiction de la mort en bénédiction. C'est-à-dire le fait que nous puissions, que le Christ vive et meure et ressuscite, surtout ressuscite, c'est pas simplement mourir, mais ressuscite, fait que la mort devient une rencontre. C'est pas juste la malédiction du premier péché, c'est le Christ a pris avec lui la mort et l'a mis en contact avec la divinité, si on balbutie, mais on peut dire, et ce mise en contact, se dit à la résurrection. C'est-à-dire que la mort n'a pas le dernier mot. C'est ça qu'on pense. Nous croyons que la mort n'a pas le dernier mot. D'où aussi, je pense à votre rôle d'éducateur. Parfois les grands-parents meurent, ou des oncles et tantes, ou des voisins, des amis proches, etc. D'expliquer aux enfants ça. Il y a toute une catéchèse pour les enfants. Papy, mamie, ou papy, voilà, sont morts, voilà, mais où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est passé? Les enfants, ça les interroge beaucoup, la question. Les enfants n'ont pas peur de la mort. C'est nous qui, souvent, leur transmettons nos peurs de la mort. Mais les enfants s'interrogent. Alors voilà, où est-ce qu'est papy, mamie, etc. Puis la mort du chat, quand le chat est mort, alors du coup, voilà, où est-ce qu'il est? Bon, alors bon. Je vous dis, alors vous reprenez ça à ma. De la question de l'âme, la dimension végétative, sensible, etc. Voilà, il pose des questions parce que la mort. Mais les enfants se trouvent à bord avec une grande simplicité la question de la mort. Plus qu'on ne le pense, c'est nous-mêmes adultes qui sommes face à nos propres limites. Donc ça provoque aussi une angoisse. Et bon. Non, les animaux, non. Alors, les animaux ne ressuscitent pas parce qu'en eux-mêmes, il n'y a pas d'âme immortelle, il n'y a pas d'âme intellective, intelligence et volonté. Leur âme est stricte, leur vie est strictement liée à la matière. Donc, quand il y a la disparition de l'animal, il y a la disparition de tout l'animal, parce qu'avec la corruption, il n'y a rien qui transcende en lui-même la matière. Il y a une question, il y a une parole de saint Paul qui est étonnante, c'est que la création aspire, comme dans des gémissements, et aspire à la rédemption. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est quelque part, du sort de l'homme est liée toute la création. Dépend toute la création. Cette terre nouvelle et ces cieux nouveaux dont on parle, il n'y a pas de résurrection en tant que telle des animaux, il y a de paradis des animaux, mais parce qu'il se limite à la matière, pour le coup, mais en même temps, cette nature, ce monde-là, ce sera un nouveau monde. C'est une autre manière d'être au monde. Comment, ça reste un peu, en tout cas pour moi, très mystérieux. La parole de saint Paul est claire, hein. La création aspire au salut. Mais elle reviendra au salut par le retour de la personne humaine, de l'homme et de la femme qui reviendront à son Dieu et entraîneront avec eux toute la création, tout le cosmos. De notre retour à Dieu dépend beaucoup de choses. De notre conversion, comme aussi de notre éloignement de Dieu, et il y en a beaucoup qui en dépendent. Vous connaissez cette phrase, hein, une âme qui s'élève vers Dieu élève le monde, une âme qui s'éloigne de Dieu abaisse le monde. Il y a des enjeux, et c'est ça la vie chrétienne, il y a un véritable enjeu dans nos vies. Il y a un enjeu qui va au-delà de nous-mêmes et au-delà de ce temps. Il peut y avoir des complicités, mais pour amitié, il faut une certaine égalité. Et une tendresse, il y a une affectivité, c'est du domaine émotionnel. Mais cessez de nourrir votre chien, vous verrez qu'il vous oubliera. Ben essayez au moins. S'il y en a un autre qui le nourrit, il est probable qu'il arrive à l'autre. Bon, là, le chien, on me dit le fidèle, le plus bel, le grand ami de l'homme. Mais bon, dans la personne animale, dans l'animal, il n'y a pas de dimension qui excède la matière, quoi. Ah, j'aime bien cette parole du curé d'Ars, on est la fête du curé d'Ars aujourd'hui, il disait « Laissez une paroisse sans prêtre, ils termineront par adorer les animaux. » Comment ? Oui, mais la nature a horreur du vide. Du coup, il faut bien se tourner vers quelque chose. Et non, ils sont pas. Il n'y a pas une procréation. C'est une reproduction. Oui, d'accord. Mais il n'a pas été créé à l'image de la ressemblance. Et donc pas créés pour l'éternité, d'un Dieu qui est éternel. Ils ont été créés pour la personne humaine, pour on a vu hier avec l'écologie, etc., on est responsable, oui, gardien de la création, et donc notre conversion par rapport au plaisir immédiat, notre confort, etc., a des conséquences sur la nature, mais on ne peut pas dire que les animaux aient une survivance après leur corruption. Dieu veut ce qu'il peut, mais nous on n'est pas Dieu, donc du coup, mais bon, en tout cas, rien dans la Bible dit ça. Oui, mais déjà, on ne limite pas nous, pour nous-mêmes, on le limite déjà, donc commençons à travailler sur nous. C'est la protection animale, mais c'est marrant cet engouement pour la protection animale qui est très bien. Ne pas faire souffrir les animaux, ne pas faire. Bon, ça, on est tout à fait pour. Mais du coup, je trouve qu'on est allé un peu dans un excès. Par ailleurs, on met terme à des vies humaines dans le sein maternel par quantité industrielle. Pour 5 grossesses, il y a un avortement. Donc, du coup, il faut savoir ce qu'on veut aussi. Donc, c'est quand même énorme. Et je trouve que. Alors, ça peut être une grande déception, etc. Voir votre chien, il est fait pour cette terre. Et ça ne veut pas dire qu'il n'a pas sa dignité animale. Quoi, voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le respecter, ça veut dire beaucoup de choses, mais on ne le retrouvera pas dans l'autre monde. En tout cas, rien ne nous dit dans l'écriture qu'on le retrouvera. Alors, à la fin des temps, il y aura les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Comment ça sera, j'en sais rien.
Oui. Du soin qu'ils prennent pour sauver les âmes.
Oui.
Et donc c'est enfin, à la limite, on se dit, est-ce que nous, on prend soin effectivement des âmes et est-ce qu'on en fait suffisamment? Et en même temps, il ne faut pas trop en faire non plus.
Oui. Oui, alors c'est vrai que les saints ont le sentiment, excuse-moi, plus le sentiment, l'expérience de l'urgence. Que pour notre nature humaine, il y a une urgence. Pour nos contemporains, il y a une urgence. C'est ce Saint Dominique, vous vous rappelez, Saint Dominique qui disait, mais qu'adviendra-t-il des pécheurs, etc., comme priant la nuit et le jour, suppliant qu'il retourne à Dieu. Bon, pour nous, vous, j'allais dire, c'est un peu dit, posez-vous la question, en quoi on est aussi collaborateur de Dieu par rapport à nos enfants ? Où mettre le curseur, c'est vous qui savez, c'est vous qui avez grâce d'État pour ça, en termes de vie spirituelle. mais bon, je pense qu'ils sont plutôt dans de bonnes mains, etc. Parce que, mais maintenant, c'est vrai qu'en dehors des enfants, la question de l'évangélisation, ça se pose. Des personnes qui sont dans une ignorance totale, et on a vu qu'est-ce qui blesse l'intelligence, c'est l'ignorance et l'erreur. Des personnes qui sont dans une ignorance totale des choses de Dieu, c'est pas leur rendre service, même pour leur propre vie humaine. Et c'est vrai que l'urgence de l'évangélisation, alors de transmettre, mais c'est là où on voit que la foi, retour à la case départ le premier jour, la foi est une grâce. C'est pas force de convier. La foi vient pas de la conviction, je convainc quelqu'un. S'il est touché par notre discours, bien. S'il n'est pas touché, ben tant pis. On n'est que d'un moyen. Mais qu'on puisse ressentir comme un manque, et comme, et vous imaginez, comme prêtre, voilà, encore plus, je veux dire, ben, tous ceux qui... Alors on dit, ben, le Seigneur supplée, etc. Tous ceux qui sont loin de Dieu, tous ceux qui sont surtout dans une indifférence spirituelle, tous ceux qui... Vous dites écrire dans quel sens?
Comment le Christ a agi dans
notre vie? Ah oui, de témoigner. De, oui, c'est ça, oui.
Parce que finalement, en fait, si on ne fait pas, enfin, personne ne fera notre place. Il faut savoir nous, finalement,
qu'est-ce qu'il y a fait. Oui, alors, qu'est-ce que... Tout à fait.
Ensuite, on fait dans l'Église. Ouais. Bon,
la foi s'appuie sur les témoignages, et ça depuis les apôtres. Le témoignage, on le reçoit, on ne le reçoit pas. Ça, c'est la liberté. Et c'est là, ça nous échappe. Quelque part, il y a une manière où ça nous échappe. Je pense qu'il faut accepter ça, de ne pas avoir barre sur l'âme, la vie spirituelle. Obligation de moyens, c'est ce qu'on a vu. Maintenant, mais vous voyez, parmi vos frères et sœurs, parmi vos cousins, cousines, dans vos familles, etc., il y a tout le spectre au niveau de la vie spirituelle, du très impliqué, au pas du au bouffeur de curé, parfois. Donc, ça nous échappe, ça. Et puis voilà, et puis il y a des chemins vers Dieu qui ne sont pas nos chemins. Là, je me confie à votre prière. Là, après, là, cet après-midi, je partirai pour célébrer un mariage. Lui, elle est de famille aristocratique, très enracinée dans la foi, etc. Et lui a reçu le baptême, j'allais dire, un peu par inadvertance. Pourquoi, si les parents se passaient devant une église, bon, allez. Mettez-lui un peu d'eau, c'est un peu ça. Mais il n'a plus rien reçu après. C'est un garçon qui a une belle carrière professionnelle et qui, bon, il a rencontré cette jeune femme très impliquée dans la... Lui, ce ne serait pas forcément marié à l'église, par exemple. N'aurait pas forcément ne pas cohabité ensemble. Il dit, bon, je rencontre une autre fille, j'aurais certainement vécu avec elle avant. Bon, là, elle a demandé que non, on fasse appartement séparé. Bon, très bien, bon. Il l'a respecté, mais au fur et à mesure de la préparation au mariage, on voit que ce garçon, au fond, qui a une conscience droite, qui est droit dans sa conscience, dans son intelligence, il dit, mais ce que propose l'Église, c'est ce que je veux vivre. La fidélité, l'indissolubilité, la fécondité, la liberté, pour moi, ça, c'est non négociable. Et pourtant, il n'a jamais été catéchisé, il n'a jamais fait sa première communion. Et c'est ça. Sa fiancée qui lui a fait découvrir, et il commence à découvrir un tas de monde, de faire des relations, et je trouve très curieux de dire, bah oui, vous êtes dans tel endroit, et du coup c'est les cisterciens, du coup parce qu'il prend compte, il n'a jamais rien reçu, mais pourtant il a une conscience droite, et bien sûr il baptisera les enfants, ça c'est évident, les catéchisera, ça c'est une condition sine qua non, voilà. C'est là où, juste pour vous donner un témoignage, de dire, ben voilà, les personnes arrivent souvent sans rien, mais ce que propose l'Église, en tout cas pour la vie matrimoniale, c'est ce que veulent vivre beaucoup. Parfois, ils n'en prennent pas les moyens non plus. Voilà, ils se mettent en situation de danger, etc. Mais même s'ils ne sont pas mariés à l'Église, une tromperie reste une tromperie. Et c'est douloureux. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas en place. C'est pas ça que je voulais vivre. Et c'est pour ça que dans l'Église catholique, le désir d'accueillir des personnes qui sont loin, et de faire un bout de chemin. Alors le mariage c'est compliqué, c'est un sacrement indissoluble, etc. Donc, mais en tout cas faire un bout de chemin et de les éveiller à la vie de Dieu, de les... Mais comme c'est une grâce, on n'est que dans l'obligation de moyens, on est comme prêtre, dans la prière, dans la supplication, bah, donne-leur la grâce de s'éveiller à ça. Et si la personne s'entête, si la personne se détourne de Dieu, bon ben. Voilà. Je pense que la vie spirituelle nous amène à une telle modestie, à une telle humilité. On n'est propriétaire de rien. Une telle dépossession, décentrement de nous-mêmes. Un tel abandon, au fond, une confiance. C'est, tout ça, c'est synonyme. Le sens de la mort chrétienne. Grâce au Christ, la mort chrétienne a un sens positif. Pour moi, la vie, c'est le Christ et mourir est un gain. C'est Philippiens, au chapitre 1, verset 21, c'est saint Paul. C'est là une parole certaine. Si nous mourons avec lui, nous vivrons avec lui, de seconde lettre à Timothée. La vie, la nouveauté essentielle de la mort chrétienne est là. Par le baptême, le chrétien est déjà sacramentalement mort avec le Christ pour vivre d'une vie nouvelle. Si nous mourons dans la grâce du Christ, la mort physique consomme ce mourir avec le Christ et achève ainsi notre incorporation à lui dans son acte rédempteur. Ça veut dire que le fait de mourir avec le Christ, c'est-à-dire de... on est aussi dans l'identification au Christ, puisque le Christ est mort pour nous à travers notre propre mort. Et ça a un sens positif. Et vous savez, le baptême est sacramentellement la mort du Christ. Voilà, on est plongé dans les eaux de baptême, comme on est plongé dans la mort du Christ. Et ensuite, le baptême par immersion, si vous avez, je ne sais pas si vous avez fait baptiser vos enfants par immersion, hein, dans la tradition orthodoxe, c'est très fréquent. Et même, je crois que tous les orthodoxes baptisent par immersion. Vous avez été baptisé dans la mort du Christ, dans la mort... pour être ressuscité avec lui, donc sacramentellement avec des signes visibles, parce qu'on n'a que des signes visibles, nous. Donc on se rappelle d'une réalité invisible. Il est bon pour moi de mourir dans le Christ Jésus plus que régner sur les extrémités de la terre. C'est lui que je cherche, qui est mort pour nous. Lui que je veux, qui est ressuscité pour nous. Mon enfantement approche, laissez-moi recevoir la pure lumière. Quand je serai arrivé là, je serai un homme, saint Ignace d'Antioche, un martyr. Vous voyez, dans le chrétien, il y a une forme de tiraillement. C'est ce qu'on appelle en théologie le déjà et le pas encore. Déjà et pas encore, c'est-à-dire nous sommes déjà sauvés, mais pas encore dans la plénitude. Le monde est déjà racheté, mais on voit encore le mal à l'œuvre. Nous sommes déjà dans... La vie éternelle commence déjà, puisque nos actes retentissent dans l'éternité. La vie éternelle commence déjà, mais nous ne sommes pas encore dans la vision. Ce déjà et ce pas encore est important. On est comme... oui, il y a une forme d'écartèlement pour le chrétien. Il se sent dans ce monde de passage. C'est ce que dira saint Paul. Nous sommes de passage. Nous sommes pèlerins. Nous n'avons pas de maison stable en ce monde. Et c'est le sens dans l'Ancien Testament qu'on est en train de lire ce matin, en ce moment, de l'attente de la rencontre. Enfin, l'attente de la rencontre, c'est très précaire. Je ne sais pas si vous avez vécu sous temps, c'est peut-être... Ça remonte à quelques années, mais l'attente, c'est précaire. Mais l'attente, on la déplace. L'attente de la rencontre, voilà. Dieu est un Dieu précaire parce qu'il chemine avec les hommes. Et la volonté des hommes, c'est de structurer, c'est d'établir. Sur des terres, ils ont mis leur nom. Voilà. Le grand péché d'Israël, c'est le recensement, par exemple. On veut compter combien on est. C'est-à-dire, on veut, voilà, mettre la main sur nos forces, sur notre humanité, pour ne plus dépendre de Dieu. Et donc le recensement, c'était l'abomination de la désolation. Nous sommes, justement, il n'y a jamais eu de recensement en Israël, dans l'Israël ancien, en tout cas, dans l'Israël moderne, dans l'État moderne, c'est autre chose, l'Israël, mais parce que le recensement était vu comme un manque de confiance en Dieu. On voulait être comme les autres peuples, fort comme les autres peuples, mais nous ne sommes pas comme les autres peuples. Oui, mais c'est les Romains qui l'ont fait. C'est les Romains qui l'ont fait, c'est pas les Juifs. Et ils sont tous morts. Non, mais c'est vrai, le recensement, c'était l'occupation, l'occupant romain qui faisait le recensement. Mais il y a eu des tentations de recensement en Israël, sans l'occupation romaine, pour dire, voilà, on est ce qu'on est, on est les forts, on est, voilà. Et non pas cheminer avec une tente de la rencontre qui est précaire. Dans les nombres. Oui. Mais recenser tout le peuple d'Israël, par exemple, les généalogies, si vous avez lu les généalogies du Christ, c'est jamais un recensement parce qu'il manque beaucoup de gens. Il n'y a pas 14 générations d'Abraham jusqu'à Moïse, il y a beaucoup plus de générations parce que bon, l'idée du recensement, c'était l'idée de vouloir être dans une toute puissance. Alors que Dieu lui-même habite une maison de toile. Comment toi tu vas être dans la toute-puissance si Dieu habite dans une maison de toile? Et cette maison de toile, c'est la préfiguration de notre humanité. Hein, on est, voilà, pèlerin, on est en route vers, hein, le viatique, hein, c'est ça. C'est, on est en route vers, on est de passage. Dans la mort, Dieu appelle l'homme vers lui. C'est pourquoi le chrétien peut éprouver envers la mort un désir semblable à celui de saint Paul. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ. Mais il peut transformer sa propre mort en acte d'obéissance et d'amour envers le Père, à l'exemple du Christ. Mon désir terrestre a été crucifié. Il y a en moi une eau vive qui murmure et qui dit au-dedans de moi, viens vers le Père. Je ne meurs pas, dit la petite Thérèse de l'enfant Jésus, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Voilà. Je trouve beau de terminer cette session, justement, même si c'est un côté un peu lourd peut-être, mais de terminer la session sur la contemplation du royaume et la fin de notre vie terrestre. Vous mettez vos enfants au monde pour la vie éternelle, pas pour ce monde, pas pour la fosse. Parce qu'il y a en eux quelque chose qui est plus grand qu'eux-mêmes.
Il nous rend bien.
Il nous rend bien. Oui, c'est sûr, oui. Ah ben forcément, c'est la vertu d'espérance que on sera, ça nous oblige à aller plus loin que nos peurs, ça fait notre espérance qu'on sera avec le Seigneur, quoi. Il y a quelque chose en nous qui ne se résout pas au néant, ce que je vous ai dit, à la fin, là. Il y a quelque chose qui ne se résout pas, quoi. Mais le chrétien croit en un Dieu qui a pris sur lui la mort. Là aussi, c'est unique. Il a pris sur lui la mort. Il a vécu. Donc ça donne une espérance, évidemment, qui est, et puis il l'a traversé. Il en est ressorti victorieux. C'est pas un péché parce que Dieu lui-même a pleuré face à Lazare qui était mort. Vous vous rappelez, Lazare était mort, etc. Et le Christ pleura, etc. Bon, et regardez comme il l'aimait, reprenez la mort de Lazare et la résurrection de Lazare. Non, parce qu'on on a le droit d'être douloureux face à la perte d'un être cher, d'un parent, évidemment d'un enfant, et puis de bon, on a le droit d'être tout à fait douloureux, mais c'est pas pour ça qu'on est comme ceux qui sont sans espérance. Être douloureux, ça ne veut pas dire être sans espérance. On reste de nature humaine. Voilà. Et le Christ aussi a pleuré face à la mort de son ami Lazare, et puis il a été touché de compassion face à la mort de la fille de Jaïr, etc. Il a été touché par ces... les angoisses à Gethsémani, oui, face à sa propre mort. Donc non, c'est légitime de pleurer avec ceux qui pleurent, riez, soyez dans la joie avec ceux qui sont dans la joie, c'est saint Paul, c'est voilà, c'est cette compassion. Mais en même temps, on n'est pas dans la désespérance, je pense que c'est ça qui est important, on n'est pas dans la désespérance. On n'est pas dans l'absurde. On est dans une grande espérance de contempler avec Dieu, d'où l'importance de prier pour nos morts, de faire dire des messes aussi, ça permet un peu de faire dire des messes. Mais c'est important, c'est qu'on fait dire des messes pour les défunts, c'est-à-dire qu'on confie nos défunts au Christ, on demande que les mérites de sa passion soient vraiment appliqués à nos défunts. Voilà, le faire de visiter les tombes, par exemple. C'est important aussi, c'est un acte d'éducation, les tombes des grands-parents, les tombes de... Mais pas comme quelque chose de morbide, au contraire, comme quelque chose, voilà, cette terre-là, elle va terminer. Et la session va terminer aussi, donc... Bien, mes amis, bon courage dans votre cheminement. Alors, je vais reprendre les livres. Alors, ceux qui ont les... Je vais les reprendre pour... Et je ne sais pas, Père Eric, tu aurais des...
Non, rien de spécial. Bon.
Oui, une question. Alors, on partage en grande partie quand je dis « je crois en l'Église catholique ». Là, on le partage. Alors, les protestants disent « je crois en l'Église universelle », etc. La dimension ecclésiale est différente, mais pour le reste, oui. La vie éternelle. Ils le disent, alors, ils le disent dans leur célébration. Oui. Oui. La communion des saints, c'est dans le credo de Constantinople, dans le symbole des apôtres. La communion des saints, c'est-à-dire que je crois que je peux avoir un lien particulier que dans l'Église, il y a seulement l'Église des vivants, mais il y a l'Église des défunts. C'est-à-dire que je suis en lien avec les personnes qui sont décédées. Oui.
Une question, Dijon, pour les âmes du purgatoire, oui. Est-ce qu'il y a un monastère, une communauté qui prie pour les enfants avortés ?
Non, pas à ma connaissance, mais ça pourrait être le cas des enfants qui n'ont pas pu voir le jour, etc. Non, et peut-être aussi pour leurs parents aussi, je pensais aussi prier pour un parent. Non, je ne sais pas. Mais à Montligeon, c'est vrai, il y a cette tradition, et qui a été remise, je veux dire, au goût du jour par la communauté Saint-Martin, de prier pour les âmes du pauvre. C'est traditionnellement un lieu. Et nous, on reçoit souvent des trentains, ce qu'on appelle des trentains, c'est-à-dire 30 jours d'intercession pour une âme en particulier, qui nous viennent de Montligeon. C'est important de dire ça, de dire que... Et je m'associe... Alors, je verse une obole à la communauté qui célèbre les messes, mais je m'associe aussi spirituellement. Je dis, de tel jour à tel jour, on vous demande de vous associer spirituellement, soit en participant à la messe, soit en vous unissant par la prière. Soit pas simplement, voilà, je donne une obole et puis je m'en débarrasse. Donc la communion des saints, c'est ça, c'est de dire que j'ai une responsabilité par rapport aux saints qui m'ont précédé, qui seraient en cheminement, mais aussi une demande d'aide de ceux qui m'ont précédé. Ce n'est pas forcément les saints canonisés. Ça l'est. Les saints canonisés sont des modèles pour l'Église universelle. Mais il y a des tas de personnes qu'on estime qui sont dans un état de sainteté par leur vie. Ma grand-mère, je suis sûr qu'elle est auprès du Seigneur. Par exemple, c'est une sainte femme, etc. Notre père Jean, que peut-être certains ont connu, un saint homme de Dieu. Peut-être on ne fera jamais de procès de canonisation. Bon, voilà, mais on n'a pas de doute qu'il soit avec le Seigneur.
Juste pour information, il y a des parcs, enfin, il y a un lieu maintenant où on peut être
Oui. On peut mettre les enfants non nés. Oui. Ah bon, à la Sainte-Baume, oui. Chez les Dominicains, là-bas. La grotte de Sainte-Marie-de-Madeleine. C'est ça, oui. On peut prier, oui. Oui, bah, c'est assez mystérieux, c'est vrai. Maintenant, dès qu'ils ont reçu l'âme humaine, ils sont personnes humaines en formation dès la fécondation, ils ont le même sort que nous, d'une certaine manière. Si c'est fausse couche, les parents avaient l'intention de les baptiser, et que ça n'aboutisse pas, peut-être certains d'entre vous ont connu des fausses couches, ils seraient nés ou elles seraient nées, vous l'auriez baptisé. Du coup, dans votre cœur, c'est clair. Mais ensuite, ceux qui n'ont pas d'idée de baptiser leurs enfants, etc., ils sont remis dans la miséricorde de Dieu. Donc, on se pose la question, mais où est-ce qu'ils sont, etc. C'est plus une question qu'on se pose de la même manière, parce que je pense aussi, c'est l'affirmation que, entre autres avec Sœur Faustine, de la miséricorde de Dieu qui va bien au-delà aussi de nos calculs, de nos structures théologiques. Donc, du coup, on confie ces êtres-là à la miséricorde de Dieu. On peut faire dire des messes pour des personnes, voilà.
Ils ne sont pas forcément touchés par le péché,
enfin, non, pas la génération, mais qui n'ont pas un péché personnel. Comme des enfants morts en bas âge, ils n'ont pas le péché personnel. Donc du coup, on les confie à la miséricorde de Dieu.
Justement, ils ouvrent la porte du ciel, en fait. Mais,
oui. Ces enfants-là, oui, ces enfants qui... On aura aussi un lien avec eux mystère, même s'ils n'ont jamais vécu, on aura un lien avec eux. Parce qu'on a eu un lien. Tous les liens d'amour que l'on aura sur la terre seront glorifiés dans le ciel, forcément. Ça ne peut pas être autrement. Allez, mes amis. C'est bien, je vous admire, parce que c'est sûr, sur le credo, c'est intéressant, mais c'est exigeant. Travailler, que ça puisse vous donner un petit goût de travailler ces questions-là, qui ne sont pas faciles, j'admets, mais bon.